Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est Mediapolis tous les samedis en direct, même pendant les ponts, les congés, tout ce que vous voulez, sur l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Et avec nous, le prince, le roi, l'empereur, les deux meilleurs qualifiés pour nous parler du nouveau monde des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Inco, Eric Scherrer, directeur innovation et prospective chez France Télévisions, et Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte, directeur de l'école de journalisme de Sciences Po, qui vient de publier un super livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Mais en attendant, pour commencer, comme d'habitude, et lancer l'actualité de la semaine, enfin de la dernière partie de la semaine, la plus polémique et pas forcément la plus intelligente, compte-nous.
On reste sur cette intrusion à la Pitié-Salpêtrière. Certains personnels soignants affirment qu'il n'y a pas eu d'attaque, de manifestants, ni de matériel dérobé, et que le personnel n'est pas du tout choqué. Docteur Simès, bonjour.
Oui, bonjour Marina.
Non.
Rappelez-moi votre prénom, Marina.
C'est Céline.
Bien enchanté, Marina. Et oui, le personnel soignant a fait preuve d'un sang-froid remarquable en même temps. Quand on est habitué à voir débouler 50 patients par minute qui ont des fractures ouvertes du tibia, qui ont avalé une fourchette ou qui se sont enfoncé une télécommande dans l'ionf, on peut garder son sang-froid devant 30 personnes en gilet jaune.
Oui, mais ils ont quand même eu peur, hein, peur de la casse, notamment à l'hôpital.
Écoutez, là encore, ma chère Marina, c'est parce qu'ils sont habitués, la casse à l'hôpital, cela fait 30 ans qu'elle est faite par les différents gouvernements, donc ce n'est pas une poignée de manifestants apeurés qui vont les impressionner.
On croirait vraiment entendre Michel Simès, et c'était pourtant une imitation, celle Nicolas Canteloup, vendredi 3 mai sur Europe 1. Alors après, s'est déclenchée une incroyable polémique qui continue d'ailleurs aujourd'hui parce que le ministre de l'Intérieur a à chaud parlé d'une attaque contre l'hôpital. Écoutez le commentaire sur CNews, parce qu'on est ouvert à la concurrence, de Clément Vitkorovitch, docteur en sciences politiques.
On est au-delà de l'exagération, on est dans la contre-vérité, encore une fois, les faits sont établis. Christophe Castaner dit « on a attaqué un hôpital », c'est faux. Il dit « les forces de l'ordre sont intervenues pour sauver le service de réanimation », c'est faux. On est de l'ordre de ce qu'il faut bien appeler un mensonge officiel. On parle du ministre de l'Intérieur, sa parole engage l'État. Il est de son devoir de ministre d'être extrêmement prudent. Ce gouvernement me semble, moi, avoir un rapport à la vérité quand même assez curieux. Le gouvernement utilise Emmanuel Macron, Christophe Castaner, des arguments qui sont des mensonges d'État pour tenter de justifier leur politique et pour tenter de jeter le discrédit sur un mouvement social.
Bon, mensonge d'État, on va parler dans un instant. Le Clément Vitkorovitch, a beau être docteur en sciences politiques, il a l'engagement fort. De son côté, Florent Philippot, meilleur dans les jeux de mots que dans les intentions de vote, a réagi comme suit.
On a effectivement non plus un ministre de l'Intérieur, mais un menteur de l'Intérieur. Et c'est très grave. Voilà, Monsieur Castaner, dans n'importe quelle démocratie, il aurait déjà été démissionné. Parce qu'on voit bien qu'il s'est précipité sur un fait, il n'avait pas d'informations, ou alors même pire, il avait les informations que nous avons aujourd'hui. Il a donc menti dans le but d'entretenir une atmosphère de tension, de division.
Ça, c'était sur Europe 1 vendredi. Alors, sous réserve qu'il soit démontré qu'il y a eu mensonge délibéré, ce qui n'est pas la même chose que qualification erronée des faits. Sous réserve que l'on démontre qu'il y a eu mensonge délibéré, et à ce stade, ça ne l'est pas, la thèse que je soumets à mes invités est la suivante. Dans n'importe quelle démocratie d'avant les réseaux sociaux, cette histoire aurait fait flop au bout de 24 heures. Bruno Patino.
Je ne sais même pas si cette histoire aurait existé, en fait.
Oui, bien vu.
Bonjour d'abord, oui. Pardon. Mais ce que je crois, c'est qu'effectivement, l'ère des réseaux sociaux, en tout cas la façon dont ils sont structurés, parce que tous les réseaux sociaux ne sont pas organisés de la même façon, donne une prime à la circulation émotionnelle. Et donc effectivement, là, ce que l'on observe, effectivement sous toutes les réserves que vous avez dites, c'est effectivement un emballement émotionnel autour de la communication politique.
Éric Scherrer,
on est face à une fake news. On est face à une fake news qui est diffusée par le gouvernement. Je ne sais pas si c'est un problème de réseaux sociaux.
Pardonnez-moi. Une fake news, c'est une information délibérément
Non, pas forcément. Elle peut
ah bah
être...
Moi, je trouve non, que non. Bonne... Alors, attendez, bah alors sinon, si à chaque fois qu'on fait une information légèrement erronée, c'est une fake news, c'est pas juste, je veux dire. Ce qui distingue la fake news de l'erreur qu'on peut rectifier, c'est, pour moi, c'est vraiment qu'elle est délibérée. Et Bruno Patino, par body language, me donne raison, donc je lui passe le micro à l'instant.
Non, en tout cas... Les universités essayent de faire trois catégories aujourd'hui. Ce oui. qui est de la désinformation, c'est-à-dire la fausse nouvelle délibérée, la misinformation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de l'information erronée non délibérée, et puis de la malinformation, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'information, mais qui peut être du divertissement, de l'émotion ou de la réaction, qui est pris comme une information par ceux qui le reçoivent. Donc, dans quelle catégorie on est en ce qui concerne cette histoire de pitié salpêtrière, en tout cas, à ma connaissance, on ne le sait pas encore.
Non, on le sait pas, mais on est sur une information fausse.
Oui.
Et donc, avec un problème. Et heureusement, me semble-t-il qu'on a eu là les réseaux sociaux pour réagir plus rapidement peut-être que les médias traditionnels pour mettre en lumière des choses qui étaient différentes d'une version officielle qui a été reprise très rapidement par les médias.
Oui, ça c'est intéressant parce que il y a quelques semaines, on a développé ici, c'est à l'origine de l'idée, c'était Maurice Safran, parce qu'on évoquait l'Algérie, que je résume comme suit. Dans une dictature, les réseaux sociaux sont une bénédiction. Dans une démocratie, les réseaux sociaux sont une malédiction. Mais sur ce cas précis, c'est pas une malédiction, parce que sur ce cas précis, on a une autorité, un pouvoir politique qui décrète une lecture de l'événement erroné, et c'est quand même grâce aux vidéos. Au départ, c'est fondamentalement parce qu'il y a eu des films amateurs, des films faits par smartphone, et les témoignages que, du coup, il est démenti et obligé de s'excuser.
Oui. Pardon, Eric. Oui, mais en même temps, pas uniquement. C'est-à-dire qu'encore une fois, les réseaux sociaux ne sont pas un écosystème qui est totalement, comment dire, déconnecté de l'écosystème médiatique. Puisque ce que mentionne Eric Scherrer est tout à fait juste, les vidéos ont été mises en ligne très très vite, mais le travail de rédaction professionnelle, je pense notamment au Monde ou à Check News de Libération ou d'autres, Le Figaro ensuite s'y est mis, on voit que les rédactions ont essayé de reconstituer l'enchaînement précis des faits en utilisant effectivement ce qui circulait sur les réseaux sociaux, mais en les vérifiant.
Donc la thèse de Patino, c'est que l'articulation entre Nouveau Monde et Ancien Monde, si on veut prendre cette terminologie d'Arby, l'articulation entre les nouveaux outils de communication et les médias traditionnels, en l'espèce presse écrite, là, peut fonctionner et être positive, Éric Scherrer.
Oui, elle a fonctionné. Elle a fonctionné dans ce cas précis. Je sais que dans la nuit du 1er au 2 mai, il y a eu des pressions, notamment vis-à-vis de l'AFP, d'officiels pour maintenir les versions du gouvernement. On a eu heureusement rapidement ces vidéos qui venaient des témoins de la scène. Du public qui se sont emparés. C'est l'un des constituants de la révolution numérique. C'est le fait que les témoins, les citoyens, sont aujourd'hui en mesure de prendre nos outils et de s'en servir.
C'est très intéressant, chers auditeurs, vous voyez, parce que je suis quand même assez décontenancé, parce que j'ai invité Bruno Patino à partir de son livre « La civilisation du poisson rouge » qui vient de sortir chez Grasset, et Éric Scherrer, qui dirige la revue Métamédia, le cahier de tendance média de France Télévisions, parce que j'avais lu, sous la plume des deux, des critiques très très fortes sur le nouveau monde numérique dans lequel nous vivons. L'expression même très honnête, un assez réel désenchantement, en tout cas, oui, même chez les deux, qui expliquaient qu'au début, ils avaient cru à toutes les vertus ou à beaucoup des vertus de ces utopies et que finalement, ils en revenaient largement. Et voilà que notre émission commence, où ils expliquent les bienfaits des réseaux dans leur articulation avec les médias. Donc, ça prouve que ce sont des esprits honnêtes, d'une part, et ça prouve que je n'ai pas été assez lucide, d'autre part. Mais rassurez-vous, la critique va venir dans quelques instants.
Chaque samedi de 10h à 11h sur Europe 1, vous écoutez Mediapolis. C'est avec vous, Olivier Duhamel. Vous êtes ce matin avec vos deux invités, Éric Scherrer, directeur innovation et prospective chez France Télévisions, et Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte, auteur de La civilisation du poisson rouge, paru aux éditions Grasset.
Remarqué par le temps qu'il fait, Patino aussi, hein, Gérald, si vous voulez. Alors, moi, je voudrais remercier Christophe Castaner, parce que grâce à Christophe Castaner, sur 3 des 4 chaînes infos ce matin, pas de gilet jaune, pas directement en tout cas, mais Castaner, Castaner, Castaner. Il n'y a que sur France Info où c'est le tabou de l'homosexualité dans le football français. Je ne dis pas tout ça pour que vous appuyiez sur ces chaînes de télévision, au contraire, pour que vous sachiez à quel point c'est plus intéressant d'écouter Europe 1 Mediapolis. Mais quand je vois Castaner partout, j'ai envie de vous poser la question, chers invités, est-ce que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui dictent assez largement l'agenda des chaînes info ? Silence perplexe des deux. Aucun ne veut prendre la parole en premier.
Si, on peut en...
Bruno Patino ose.
Bruno Patino ose. Non, je pense qu'en fait, si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, ce qu'on a dit auparavant, quand vous faisiez allusion aux dictatures et aux démocraties, c'est que l'existence des réseaux sociaux met un terme à l'idée de récit unique.
Oui.
Et donc, sur toute histoire, sous toute histoire qui se développe, sur tout fait qui se développe, aujourd'hui, il y a une multitude de récits.
Si on s'arrête un instant sur ce premier point, ça c'est positif, c'est plus de pluralisme, si ça n'était que ça.
Ça c'est positif, après toute la question, on y reviendra après, c'est comment s'organisent ces récits ou comment sont hiérarchisés à l'intérieur de ces réseaux ces récits.
Vérifier
mais
le fait, hiérarchiser.
Mais le fait qu'il y en ait une multiplicité, je pense que c'est une bonne chose. Après sur l'agenda, il y a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que en fait, l'agenda setting, donc cette fameuse théorie qui fait qu'à un moment donné, les médias servent non pas à dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais sur quel sujet ils doivent réfléchir, même s'ils ont des opinions tout à fait diverses sur ces sujets-là. Évidemment, l'agenda est devenu plus complexe aujourd'hui. Les réseaux sociaux, un certain nombre d'entre eux, participent à la création de cet agenda qui a tendance à être pris effectivement par les chaînes info dans le fameux effet de boucle dont on parle, c'est-à-dire un agenda qui émerge des réseaux sociaux et qui finit par nourrir les chaînes info. Reste quand même que quand on observe la réalité des choses, et notamment il y a une étude qui vient d'être faite par le Media Lab de Sciences Po avec l'Institut Montaigne, on observe que ça ne remonte pas automatiquement. C'est-à-dire que l'idée de se dire que tout agenda... Tout thème qui sourd dans les réseaux sociaux aujourd'hui remonte dans les médias classiques n'est pas quelque chose de vérifié. Il faut à un moment donné un passage dans le monde réel. En tout cas, il y a une barrière, il y a une espèce de frontière qui n'est pas forcément positive d'ailleurs, puisqu'il peut y avoir une déconnexion entre l'univers médiatique d'une part et l'univers des réseaux sociaux de l'autre, et qu'il faut un franchissement de barrière pour que ça arrive. Et si on regarde les gilets jaunes, on s'aperçoit que avant les manifestations, c'est-à-dire avant l'arrivée, j'allais dire, dans la réalité de la cité, les gilets jaunes dont les thèmes sont pourtant omniprésents, notamment sur Facebook ou dans certaines communautés de Facebook, ces thèmes-là ne sont pas dans l'agenda des principaux médias français.
Et vous en mettez, on s'arrête un instant sur ce point, une explication positive, en quelque sorte, c'est la présence de la réalité dans la cité. Moi, j'en ajouterais une autre qui peut l'être un peu moins. C'est parce qu'enfin, il y avait des images. Ça renvoie plutôt plus généralement, avant même les réseaux sociaux, à l'ère des écrans. S'ils n'avaient pas trouvé le coup des gilets jaunes, ça n'aurait jamais fonctionné comme ça a fonctionné.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Et encore une fois, mon explication ne se veut ni positive ni négative. Elle est juste de se dire que si on parle du réseau social conversationnel qu'est Facebook, qui n'est pas le même que Twitter... il n'a pas d'agenda unique. Il a autant d'agenda que de communautés.
D'accord.
Alors, si on rentre dans la subtilité, la problématique, c'est de dire que toutes ces communautés qui ont des agendas différents partagent les mêmes règles, j'allais dire, de partage de conversation, qui sont celles de Facebook, puisqu'elles sont dictées par les règles de Facebook. Ça ne remonte pas automatiquement, effectivement, dans l'agenda médiatique. Et donc, on peut craindre, à un moment donné, une déconnexion entre ces deux univers-là. Vous avez tout à fait raison, c'est quand ça rentre dans la cité et quand ça produit des images que ça rentre dans les télévisions en continu.
Oui, mais alors, là, vous n'évoquez pas un autre aspect qui me semble très important, et lui... quand même négatif, parce que là, vous êtes ce matin, Bruno Patino, vous êtes passionnant dans l'analyse, mais d'une frilosité dans la conclusion et dans le jugement qui est surprenante. Mais bon, ça va peut-être s'arranger. Non, il ne faut pas que ça baisse dans l'analyse. Hein, mais...
Non, parce que, mais je ne veux pas, après, il faut qu'Éric dise aussi ce qu'il en pense, mais moi, pour moi, le cœur du problème par rapport à cette déconnexion-là, c'est comment, justement, s'organise tous ces récits multiples à l'intérieur des réseaux sociaux.
Voilà, c'est justement ce que je voulais demander à Eric Scherrer. Parce que moi, j'ai lu avec passion votre article « Bientôt l'ère des post-news » qui est sorti dans Métamédia de novembre...
Décembre, oui.
Décembre. J'ai eu l'info le 11 novembre.
Novembre en texte d'abord, et puis décembre le cahier, pardon.
Excusez-moi, mais d'abord en texte. Je suis content d'être plus précis que vous, c'est toujours ça le prix. Hein. et dans lequel vous disiez qu'un des effets était ce que vous appelez la désynchronisation, traduit de manière simple, mais tout en prenant vos termes d'ailleurs, la fragmentation des publics. La vraie question, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend toujours cette expression, il faut faire société. Il faut être ensemble, il faut créer du lien. Autrefois, un des bénéfices de du premier stade de la vidéosphère, pour reprendre la terminologie de Régis Debray, c'est que l'ère des écrans télévisuels fabriquait au moins dans les années 60, 70, 80, un lieu commun de regard sur le réel. Et c'était la fédulogie, je crois, le sous-titre du livre de Volton et Missika à l'époque sur le sujet, si je me souviens, c'est ça, Bruno ? Oui. Et aujourd'hui, tout ça est complètement éclaté. On n'est plus à discuter contre soi de nos petits sujets à nous. Et donc, est-ce que ça, c'est pas quelque part le vrai vice de l'ère numérique et le vrai danger pour la démocratie ? Et Eric Scherrer, vous allez nous répondre dans quelques instants.
Jusqu'à 11h sur Europe 1, c'est Mediapolis. Olivier Duhamel, nous vous retrouvons avec le directeur innovation et prospective chez France Télévisions, Eric Scherrer, et le directeur éditorial d'Arte, auteur de La civilisation du poisson rouge, paru aux éditions Grasset, Bruno Patineau.
Eric Scherrer, vous avez eu un petit temps de pause pour méditer. Est-ce que la fragmentation de la société, finalement, la fragmentation de ceux qui discutent, qui suivent le réel, n'est pas un des principaux effets de la prolifération des outils et de ce fait quand même un danger, un risque, une difficulté en tout cas pour la démocratie.
Je crois que c'est le principal effet. Alors, ça peut être un danger pour la démocratie, mais cette énorme fragmentation, elle touche l'information, elle touche le divertissement, la musique, le cinéma. Parce que chacun, désormais, a une consommation, une pratique culturelle qui n'a plus grand-chose à voir avec celle de son voisin. Alors, pour rester sur l'information un instant, on est face aujourd'hui et on le voit chaque année, chaque enquête, à une défiance accrue des citoyens vis-à-vis des médias traditionnels que nous représentons ici. Cette défiance, hélas, est aggravée, accélérée par des technologies de rupture qui se servent de la personnalisation, qui se servent des fameux algorithmes pour emmener chacun dans des couloirs de nage bien différents, dans ce qu'on appelle des chambres d'écho ou des bulles cognitives, et qui sont effectivement une vraie menace sur le lien, sur le vivre ensemble de communautés très très larges.
Mais est-ce que la défiance à l'égard des médias, est-ce qu'on mesure aussi confiance, défiance à l'égard des réseaux sociaux ? Et est-ce qu'elle n'est pas égale, cette défiance ? Ce qui serait paradoxal, parce que une des sources de la défiance vis-à-vis des médias traditionnels, c'est le procès, comme quoi ils sont en connivence avec les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques. Or, on ne peut pas faire ce procès-là aux réseaux sociaux.
On est au début d'une histoire, c'est quelque chose de mouvant, d'agile et de fluctuant.
Aujourd'hui, voilà, vous avez raison. Prudence, vous
non,
avez
non, mais
la
c'est vrai. Vous avez raison. Il y a un backlash, il y a ce qu'on appelle un techno-backlash en ce moment contre les réseaux sociaux, contre les grandes firmes et à juste titre contre les grandes firmes technologiques qui ont pris le pouvoir. Donc on est en train d'assister effectivement à une défiance accrue, croissante vis-à-vis de ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. Mais incontestablement, c'est une énorme fragmentation aujourd'hui des usages. Je prends l'exemple de la télévision qui était jusqu'à présent, qu'il fait encore parfois, censé créer du lien social dans la société pour rassembler les gens autour de choses en commun. Alors ça existe toujours
pour le foot,
pour le sport ou pour des grands événements.
Pour le foot ou si Notre-Dame brûle.
Voilà, pour des grands événements tragiques. Mais pour le reste, vous savez, quand vous n'arrivez plus à faire le lien social à l'intérieur de la maison ou du foyer, puisque dans le même pièce, dans la même pièce, chaque personne regarde un écran différent, un contenu, une œuvre différente. C'est difficile de faire, de construire ce lien social si on n'arrive déjà pas à le faire à l'intérieur d'un foyer. Donc on est effectivement face à quelque chose de nouveau, d'éparpillant, de fragmentant, qu'il faut regarder.
Bruno Patino, vous donnez au début de votre livre La civilisation du poisson rouge des chiffres impressionnants. D'ailleurs, vous commencez, ce qui explique ce titre a priori mystérieux, en rappelant qu'il a été démontré par des expérimentations scientifiques qu'un poisson rouge a un temps maximum de concentration de 8 secondes. Bah, 8 secondes, bah on se dit, poisson rouge, ça va, il n'a quasiment pas de cerveau, il est naze de chez naze, c'est pas très grave. Sauf que vous montrez après qu'on a prouvé aussi que le temps maximum de concentration des jeunes du 21e siècle était de 9 secondes. D'où votre titre, La civilisation du poisson rouge. Ça, c'est quand même un facteur de crétinisation généralisée, non ?
Je pense surtout que c'est le diagnostic qui complète exactement ce que vient de dire Eric Scherrer. C'est qu'en gros, tous ces outils fragmentent. Et ils fragmentent parce qu'ils nous mettent, je reprends l'image qu'a pris Eric Scherrer, dans un couloir de nage, d'information, de divertissement, au plus près de nos émotions et de notre goût. Et si j'ai voulu écrire ce livre, encore une fois, tout en ayant travaillé dans le numérique très longtemps et en continuant à croire aux énormes potentialités de l'univers numérique, c'est parce que on constate que notre rapport aux écrans, y compris en ce qui me concerne d'ailleurs, petit à petit devient un rapport de dépendance. Et ce rapport de dépendance, en tout cas ce fait qu'on soit de plus en plus attiré par des sollicitations numériques qui nous remettent en permanence dans notre couloir de nage, ça n'est pas un produit de la technologie. En tout cas, c'est la thèse que je défends dans ce livre. Toutes ces pathologies qu'on a, la peur d'être oublié, l'anxiété ou autre, c'est un produit d'un modèle économique. Et encore une fois, le réseau social aujourd'hui tel qu'on en parle, c'est-à-dire cette fragmentation qui a lieu, c'est vrai qu'elle a lieu au plus près de nos désirs, mais elle a lieu aussi pour répondre à un modèle économique qui est celui de l'économie de l'attention.
Oui.
Et c'est parce que ces plateformes-là ont un financement qui est dû...
Ouais.
Au temps qu'on leur accorde,
ben oui.
Que du coup, elles nous mettent dans des couloirs qui sont au plus près en permanence de ce qui peut être notre émotion personnelle. Et donc, ça accentue pour moi le système de fragmentation, y compris dans le foyer, dans la famille, évidemment,
alors, imaginez,
et bien évidemment dans la nation.
Alors imaginez à quel point c'est grave au point où nous en sommes. Imaginez que je sois chez moi, en famille, j'ai mes deux fils, Bruno et Eric, j'ai ma petite fille, Géraldine, et on regarde chacun quelque chose de différent. Et non seulement on regarde chacun quelque chose de différent, mais Géraldine zappe toutes les 9 secondes, Bruno tient un peu plus longtemps, mais pas beaucoup, parce que sous prétexte qu'il veut être informé parfaitement, en fait, il passe de CNews à C+, à France Info, à machin, en croyant que c'est pour être mieux informé. Et il n'y a que Eric qui est 2 minutes sur le même truc parce qu'il doit écrire un papier là-dessus. Voilà le nouveau monde dans lequel on vit. Franchement, comment est-ce qu'on va s'en tirer ? Réponse dans quelques instants.
C'est Mediapolis sur Europe 1. Aujourd'hui, Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte, auteur de La civilisation du poisson rouge paru aux éditions Grasset, et Eric Scherrer, directeur innovation et prospective chez France Télévisions, sont vos deux invités, Olivier Duhamel.
Et Eric Scherrer faisait remarquer à l'instant que aux États-Unis, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font l'agenda, qui dictent l'actualité, mais Trump. Alors, d'où ma question, pourquoi est-ce qu'en France, c'est nettement moins le cas ? Je veux dire, est-ce que, par exemple, le président de la République a fait une longue conférence de presse jeudi de la semaine dernière, elle a occupé l'agenda finalement relativement brièvement. Maintenant, par exemple, on est totalement passé à autre chose. Le Premier ministre a fait cette semaine la déclinaison en programme législatif et gouvernemental de tous les changements pris. Ça a tenu 24 heures et il a suffi d'un mot de Castaner, d'un mot attaque pour paf, tout ça passe à la trappe, soit totalement laissé de côté. Est-ce que c'est lié à des incapacités de nos gouvernants, à des faiblesses de Macron par rapport à Trump, de Édouard Philippe à sa manière, ou est-ce que c'est dû à un fonctionnement différent de l'articulation parole publique, médias, réception chez nous ? Je reconnais que ce n'est pas une question facile. Donc Bruno Patino se tourne vers Eric Scherrer pour qu'il réponde, parce qu'il se dit, pendant ce temps-là, je vais pouvoir réfléchir. Alors Eric Scherrer ?
Non, c'est difficile. C'est vrai. C'est une vraie question difficile. Je vais nuancer un tout petit peu. Trump fait l'agenda, mais il le fait sur un réseau social.
Oui.
Donc on a les deux. On a la combinaison.
Pour vous la donner. Oui.
C'est une combinaison des deux. Oui. Mais on est dans un régime populiste. Et pour rejoindre ce que disait Bruno tout à l'heure, on est dans un régime populiste qui va jouer sur l'émotion. Et donc, on utilise le réseau social qui est le média de l'émotion et qui est le média du moment.
En Europe, et ça marche. Hein.
Ça marche en Italie, ça marche en Hongrie, ça marche dans les régimes populistes, ça marche extraordinairement bien. Donc, dans les autres démocraties libérales, on essaye de s'éloigner de cet instantané-là, d'aller un petit peu trop vite, comme l'a fait peut-être le ministre de l'Intérieur cette semaine, et d'essayer de ralentir.
Je voudrais m'arrêter un instant sur le « ça marche ». Pour essayer de bousculer des idées reçues dans la tête de nos auditeurs et dans la mienne par la même occasion. On vient d'avoir les chiffres de la croissance aux États-Unis au premier trimestre 2019. Plus 3,2%. Taux de chômage, 3,6%. Le plus bas taux de chômage depuis 50 ans aux États-Unis. Augmentation des salaires, 3,2% par an. Et inflation, parce qu'on nous dit tout ça va se faire au prix d'une inflation terrible, pas du tout, inflation 1,6%. Et du coup, 53% des Américains approuvent la façon dont Trump mène la politique économique. Donc, pour tous ceux d'entre nous qui se disent ce type est un fou, un clown, les Américains ne supporteront pas d'avoir un président pareil, excusez-moi, mais des résultats... Est-ce que... Là aussi, une question dont je reconnais qu'elle est absurde, mais elle m'amuse. Est-ce que Bruno Patino... La tweet politique de Trump a pu être un facteur accélérateur de la croissance aux États-Unis. Ça, c'est une question.
C'est une question à laquelle je suis absolument incapable de répondre.
Bon,
si ce n'est qu'en en revanche, pour encore rebondir sur ce qu'a dit Eric, encore une fois,
vous en fichez de ce que je dis, moi.
Non,
très bien, oui.
Mais la tweet politique, ça fonctionne sur le registre uniquement de l'émotion. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, Trump d'ailleurs le fait très très bien, puisqu'il tweet en général tôt le matin,
Oui. Enfin
à des périodes justement pour le moment où, quand vous allez vous réveiller...
Il passe 3 ou 4 heures par jour sur les télés
Vous allez vous prendre le tweet de Trump qui va faire réagir émotionnellement tout le monde. Et encore une fois, on peut effectivement dire les populistes d'un côté ou pas, mais toute gestion émotionnelle de la politique aujourd'hui, rien n'est plus efficace que les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois... Ces réseaux-là donnent une prime à l'émotionnel parce que l'émotionnel, c'est très viral.
Et voilà problème, mais Bruno Patinon, mais voilà bien le problème. C'est-à-dire que prime à l'émotionnel, c'est pas grave si c'est vrai ou si c'est faux, c'est pas grave si c'est intelligent ou si c'est con, de toute façon, ça marche. Et moi, je dis, ça marche tellement, Éric Scherrer, je mets l'hypothèse et j'aimerais bien qu'on bosse là-dessus, vous qui avez tous les chercheurs que vous voulez, qui travaillent quand vous leur demandez ou presse. Ouais, à France Télévisions, il y a du monde. Bon, pas assez, d'accord. Allez, est-ce que cette façon de faire n'est pas aussi quelque chose qui touche directement les gens, qui les rassure, qui les encourage, qui leur donne confiance et qui se disent avec ce Trump on y va et que du coup ça donne les chiffres incroyablement bons que j'ai donnés.
Alors vous avez oublié de donner un autre chiffre. C'est celui du nombre de messages faux et trompeurs de Donald Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir.
Oui,
ce chiffre, c'est 10 000. 10 000 messages faux et trompeurs du président des États-Unis alors qu'il est au pouvoir.
Vous allez totalement dans ma ligne, qui est ma ligne, malgré 10 000, voyez, je vais tout de suite le marquer sur mon carnet, ça. Malgré 10 000 messages faux depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ça marche. Et si au lieu de malgré, on disait... Et même avec.
Ce que vous voulez, donc, c'est un mélange des deux. Vous voulez un peu de fake news et puis des résultats économiques.
Non, alors, vous voulez, ça, vous pouvez le mettre tout de suite dans la poche. Je veux ça pour rien au monde. Je m'inquiète terriblement de voir qu'un truc qui, sur tous nos critères, c'est de la régression que le faux et le vrai n'est plus d'importance. C'est de la régression que le con et l'intelligent n'est plus d'importance. Et que ces régressions-là, dans des mondes civilisés, dans lesquels il y a de plus en plus d'étudiants, de plus en plus de gens cultivés, etc., etc., toutes ces régressions marchent.
Vous avez raison. Enfin, je partage votre avis. Ce qui m'inquiète le plus, moi, dans cette situation, c'est pas tant les fake news, c'est pas tant la désinformation ou les informations trompeuses, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à atteindre les gens avec les vraies news. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que les gens se replient sur leur communauté, sur leur couloir de nage, sur leur village, sur leur quartier, et se moquent de ce qui se passe ailleurs.
Eh bien, et peut-être même que, d'une certaine manière, ils se moquent qu'en portant l'ordre du pouvoir. C'est ce qu'on va voir dans 2 minutes, en revenant à l'actualité la plus directe, c'est-à-dire la non-campagne des non-élections non-européennes.
Mediapolis, c'est tous les samedis matins jusqu'à 11h sur Europe 1. Éric Scherrer est le directeur innovation et prospective chez France Télévisions. Bruno Patineau est lui, directeur d'Arte et auteur de La civilisation du poisson rouge paru aux éditions Grasset. Ils sont aujourd'hui vos deux invités, Olivier Duhamel.
Oui, merci Géraldine. Et en effet, d'abord, il ne faut pas tout imputer aux réseaux sociaux quand on regarde les élections européennes et qu'on se dit une fois de plus, il va y avoir une participation faible, une fois de plus, il y a peu de campagne, une fois de plus, la campagne n'est pas vraiment européenne. Franchement, on aurait pu dire la même chose dans les années 90 et il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Et puis sur la faible participation, par parenthèse, on peut démontrer que la chute de la participation aux élections législatives est beaucoup plus forte que la chute de la participation aux élections européennes. Donc, tout ça pour relativiser. Mais quand même, réseaux sociaux ou pas, comment est-ce qu'on explique, comment est-ce que vous expliqueriez l'impossibilité, alors là, des médias télévisés ou presse écrite, dans une moindre mesure, à faire vivre une véritable campagne véritablement européenne. Alors Bruno Patineau va me dire mais si à Arte, mais vous êtes gentil, vous oubliez Arte 2 secondes, je fais déjà suffisamment la pub pour votre excellent livre La civilisation du poisson rouge, pas avoir ajouté pour la chaîne de télévision dont vous dirigez les programmes, vous oubliez un instant Arte et vous essayez de m'expliquer pourquoi, à part que évidemment chez vous on est les meilleurs, mais pourquoi ça marche pas ailleurs?
C'est difficile. D'abord, il y a plusieurs choses, vous serez beaucoup plus compétent que moi pour y répondre. Il y a évidemment un problème de mécanique et un problème d'éloignement. Malgré tout, les institutions européennes, c'est un peu compliqué à comprendre. Je pense que leur fonctionnement est complexe hein, et que du coup, l'impact direct, non pas fantasmé, mais direct sur le destin de nos communautés est assez compliqué à comprendre. Et quand les campagnes électorales, du coup, sont toujours partagées entre la couverture de cette complexité et la compétition électorale qui semble nationale. Et donc, je pense qu'il y a toujours ce décalage entre un enjeu qui est transnational hein, et une campagne qui est nationale, qui fait que c'est un peu complexe à organiser de façon télévisuelle.
Je comprends très bien cette disjonction, mais ce qui me frappe, c'est qu'à de très rares exceptions près, il n'y a pas de raison de faire une campagne nationale parce que ça n'a pas d'effet national. Il y a une première exception, c'est l'émergence forte du Front National en 1984 avec Le Pen, lors des deuxièmes élections européennes. Et il y a le deuxième cas de figure qui est le cas de figure de 1994, le plantage de Rocard par Tapie qui met fin aux prétentions présidentielles de Rocard. Mais si vous oubliez ces deux exceptions qui sont lues un peu au hasard, hein, parce que 84, c'est parce qu'il se trouve que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une élection et qu'elle était à la proportionnelle nationale pour Le Pen. Et Rocard, c'est très lié à l'histoire Tapie. Finalement, les Mitterrandistes l'auraient planté autrement s'il n'y avait pas eu cette occasion. Donc pourquoi est-ce que les médias classiques s'obstinent à penser que l'Europe, ça emmerde tout le monde, qu'on ne peut pas rendre compte d'une vraie campagne européenne, qu'on ne peut pas forcer les candidats à se confronter sur ce terrain-là et pas sur les terrains nationaux. Éric Scherrer, vous êtes quand même, je vous rappelle, me permet de vous dire, vous êtes directeur, comment s'appelle votre titre magnifique là, qu'il faut que je retrouve, vous êtes directeur innovation et prospective chez France Télévisions.
Oui, mais je ne suis pas politologue.
Oui.
C'est vous, ça.
Oui, d'accord, mais France Télévisions, c'est vous, c'est pas moi.
Oui, France Télévisions, on essaye de faire le job et on essaye de s'intéresser à ce qui se passe en Europe. Je pense qu'il y a un manque de curiosité aussi assez fort vis-à-vis de nos voisins, de ce qui se passe chez eux, de ce qui se passe en Scandinavie, par exemple. Comment se fait-il que, par exemple, les médias français, et nous en faisons partie, ont mis autant de temps à parler de cette jeune Suédoise qui est en train de changer le cours de la prise de conscience autour du changement climatique en Europe. Comment se fait-il que personne, en tout cas pas moi, connaissons le nom du Premier ministre hollandais, voire des membres du gouvernement belge ou de certains membres de Scandinavie. Il y a une ignorance, on sait à peu près ce qui se passe en Allemagne et encore, un petit peu ce qui se passe en Angleterre, bien sûr.
Je dirais Rutte pour Néerlande et Louis-Michel pour Belgique, Bruno, c'est ça ?
C'est vous le politologue.
Oui, d'accord, il ne prend pas de risque. Hein. Charles-Michel, voilà, il ne prend pas le politologue, mais il corrige les faits Louis-Michel, Charles-Michel. Voilà, non mais lui, attendez, chaîne européenne, c'est la moindre des choses. Et moi, politologue, même s'il n'y a pas beaucoup de mes confrères qui auraient été capables de répondre, il faut bien défendre. Ou donc, vous donnez comme explication principale, ce qui m'intéresse à plus d'un titre, le manque de curiosité par rapport à nos voisins, qui d'ailleurs s'aggrave. Hein,
et le repli sur soi qui s'aggrave.
C'est vous qui publiez les chiffres d'évolution de la place des news internationales dans votre
qui recule.
Excellente contribution à la revue Métamédia, et qui recule considérablement. Et on a un très bon exemple de ça, qui est la façon dont ont été suivis la campagne, puis les résultats des élections de dimanche dernier en Espagne. Je vous en dis deux mots dans quelques instants.
Merci d'écouter Europe 1, Mediapolis, suite et fin, avec le directeur éditorial d'Arte, auteur de La civilisation du poisson rouge, paru aux éditions Grasset, et le directeur innovation et prospective chez France Télévisions, Olivier Duhamel. Vous recevez aujourd'hui Bruno Patino et Eric Scherrer.
Oui, et j'ai reçu dimanche soir les résultats des élections en Espagne. Et dans des temps ordinaires, le lendemain, j'aurais eu les éclairages nécessaires, venu presque à moi naturellement, parce que j'avais Libé dans ma boîte le matin, Le Monde en début d'après-midi, que je me précipitais là-dessus. À la place de ça, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il m'est arrivé le nouvel hémicycle, et puis un tweet de Pierre Moscovici. « Bravo Sanchez pour sa belle victoire. L'Espagne ne sera pas facile à gouverner, mais elle a clairement choisi la gauche européenne et réformiste. Un chemin à suivre. Bon courage. » Et puis juste derrière, j'ai un tweet de Marine Le Pen. « Mes plus chaleureuses félicitations à Santi Abascal et à son jeune et vigoureux parti, Vox, pour son entrée fracassante au Parlement. Les nations ont besoin de défenseurs enthousiastes. » Et enfin, j'ai Jean-Luc Mélenchon. « Félicitations à Podemos pour sa magnifique remontada en Espagne. Les héritiers du franquisme sont minoritaires. » Bon, déjà, juste cette dernière phrase, qu'on vive dans un monde où en 2019, je puisse lire comme une grande victoire, les héritiers du franquisme sont minoritaires, je peux vous dire que compte tenu de mon grand âge, ça m'a failli me donner envie de me suicider. Mais par rapport à ça, comment est-ce que vous voulez, pourquoi est-ce qu'on s'est si peu intéressé à ces élections en Espagne? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une mini-soirée électorale sur une ou deux chaînes, au moins d'infos sur les élections en Espagne? Et pourquoi est-ce que le lendemain, on ne nous explique pas clairement les choses? Parce que c'est impossible que Moscovici, Le Pen et Mélenchon aient totalement raison en même temps. Ils se regardent.
Alors pourquoi
Bruno Patino se lance?
Comment donner une explication? Ce qui est sûr en ce moment, c'est que l'on comprend bien, et d'ailleurs c'est la preuve que l'Europe, d'une certaine façon, existe au-delà même de l'Union européenne, les élections italiennes, les élections espagnoles depuis, commencent à dessiner un paysage qui n'est pas juste un paysage italien quand il s'agit des élections italiennes et espagnoles quand il s'agit des élections espagnoles.
Européen.
Et donc, on sent quand même, pour au-delà même de l'intérêt sur les élections au Parlement européen, qu'en Europe, quelque chose est en train d'avoir lieu, un moment historique est en train de se constituer qui a des impacts évidemment sur l'ensemble des pays. Et peut-être là y a-t-il une difficulté dans la course à l'émotion justement pour bien expliquer ce qui est en train de se passer. Alors chacun essaye de faire le job, France Télévisions, Arte, les autres, etc., pour commencer à dire regardez ce qui se passe entre nous, ce qui se passe autour de nous est un moment historique et on y participe tous.
Éric Scherrer, brièvement, parce que...
Là où on ne fait pas le job, à mon avis, oui. C'est en France notamment, oui. Quand on parle des Gilets jaunes, sur les plateaux de télévision, il faudrait qu'à chaque fois, il y ait un angle international. Parce que cette situation des Gilets jaunes, elle n'est pas que française. Elle est italienne, elle est en Grande-Bretagne, elle existe chez Trump. Il y a des...
Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus des élections en Espagne. Si vous me répondez, non, il faut plus parler des Gilets jaunes.
Non, je vous dis qu'il faut parler des Gilets jaunes avec un angle international, parce que ce qui se passe en France, c'est ce que vient de dire Bruno, ça se passe aussi dans les autres pays.
Alors, l'angle international, nous l'avons aussi dans chaque émission, grâce à Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, qui pointe notre regard sur un média. Et là, elle a regardé la campagne présidentielle improbable du maire Pete Buttigieg, qui fait la une de Time, quand même, de Time Magazine. Vous voyez, même Time Magazine a le joint de choses insolites, finalement, pour vendre. Parmi un groupe de plus de 20 candidats, dont 6 sénateurs, 4 membres du Congrès, 2 gouverneurs et un ancien vice-président, Buttigieg a sauté de l'obscurité presque totale vers le devant de la scène démocrate, devançant les candidats les plus établis. Il n'y en a que 2 qui font mieux que lui à l'instant dans les intentions de vote, qui sont Joe Biden, l'ancien vice-président, et Bernie Sanders, l'ancien candidat aux primaires contre Clinton. Et Buttigieg, écrit B-U-T-T-I-G-I-E-G, pour ceux qui veulent aller sur Internet, B-U-T-T-I-G-I-E-G, est le contraire absolu de Trump. Il est plus jeune, il est plus ringard, il est plus petit, il est plus calme. C'est un vétéran homosexuel, marié à un homme, religieux, membre de l'église épiscopalienne. Il devient le nouveau visage du moment où la génération des millennials est sur le point de devenir le plus grand bloc électoral. De nombreux démocrates ont soif de changement de génération et les 2 premiers ont plus de 2 fois son âge. Alors son succès va dépendre du fait que les démocrates veuillent ou non quelqu'un à la hauteur de Trump ou changer de chaîne, comme le dit Buttigieg. Son programme Liberté, Sécurité et Démocratie est inclusif mais reste ambigu, nouveau, jeune, homo, religieux, pas de programme, toutes les chances pour réussir. Et nous, pendant ce temps-là, nous allons vous évoquer quelque chose de nettement plus sombre qui va vous expliquer le choix de la chanson. Le 23 avril dernier, 37 exécutions de peine capitale ont eu lieu en Arabie Saoudite. Et savez-vous pourquoi les gens avaient été condamnés à mort ? Ils avaient été pour espionnage au profit de l'Iran ou formation de cellules terroristes. Formation de cellules, hein, pas acte, formation de cellules terroristes. Ou pensée terroriste extrémiste, condamnation à mort pour pensée. Ou enfin, provocation de conflits sectaires. Au total, 100 exécutions capitales ont eu lieu en Arabie Saoudite cette année, avec de très très rares réactions internationales, à part les ONG et responsables des droits de l'homme aux Nations Unies. Alors, il y a très longtemps, dans notre pays, quand la peine de mort existait encore, en 1980, Julien Clerc, chanteur non engagé, s'engageait contre la peine de mort par une chanson écrite par Jean-Loup Dabadie. Et c'était contre la peine de mort à l'encontre d'assassins. Et là, nous avons la peine de mort à l'encontre de gens qui n'ont même pas tué. On écoute Julien Clerc, 1980, la deuxième partie de sa chanson.
Mais sur les assassins, commence, oui, mais la société recommence, le sang d'un condamné.
Merci Julien Clerc et Jean-Loup Dabadie. Merci Jean-Luc Arblade pour la réalisation de l'émission. Paul Lassène pour sa préparation. Géraldine pour nous avoir tenu compagnie. Compagnie à qui ? À Bruno Patineau et Éric Scherrer. Ces immenses spécialistes qui ont eu la gentillesse de venir nous éclairer ce matin. Vous pouvez écouter l'émission en podcast. Vous devez la faire écouter sur Europe 1.fr. C'est très facile et c'est super. À samedi prochain.